Chapitre 14. Platonida Ivanovna se réjouit immensément du retour de son neveu. Durant son absence, elle n'avait fait que méditer sur les motifs de son départ. Et que ne lui était-il venu à l'esprit à ce sujet ? « Il a été envoyé en Sibérie, à tout le moins, murmurait-elle, assise dans sa chambrette d'où elle ne bougeait plus. Il en a pour une année, en tout cas. » En outre, la cuisinière lui donnait continuellement des transes en lui communiquant des informations soi-disant sûres sur les disparitions subites de tel ou tel autre jeune homme du voisinage. L'innocence complète et le loyer ispolitique de son yacha ne suffisaient nullement à rassurer la pauvre vieille. « Par le temps qui court, sait-on jamais ? Il s'occupait de photographie, et puis suffire d'un rien pour que le compte soit bon. » Et voici que son yacha était rentré à la maison, sain et sauf. Elle remarqua, certes, qu'il avait quelque peu maigri et que ses traits paraissaient tirés, mais c'était bien compréhensible, en l'absence de tout soin. Cependant, elle n'osait pas le questionner sur son voyage. À table, elle se borna à demander « Kazan, est-elle une belle ville ?»«
Oui, oui, très belle, » répondit Alatov.
« Tous les habitants y sont des Tatars, je suppose. »«
Oh non, non, pas tous. »«
En as-tu rapporté une robe de chambre turque ?»«
Ah non, je n'ai point acheté là-bas. »
La conversation n'en a pas plus loin sur ce thème.
Mais dès qu'Alatov se retrouva seul dans son cabinet, il sentit immédiatement la présence autour de lui de forces mystérieuses qui s'étaient de nouveau emparées de son âme. Il se trouvait, il le sentait, au pouvoir d'une puissance invisible, d'une autre vie que la sienne, d'un être différent de lui. Encore qu'il eût lui-même déclaré à Anna, au cours d'un subit accès d'exaltation, qu'il était amoureux de Claire, ce mot lui semblait maintenant absurde et risible. Non, il n'aimait point. Comment aurait-il pu d'ailleurs s'éprendre ainsi d'une morte qui, de son vivant encore, lui déplaisait et qu'il avait presque complètement oublié ? Non, il ne s'agissait pas d'amour. Mais il était au pouvoir, il se trouvait en son pouvoir. Il ne s'appartenait plus, il avait été pris au point qu'il n'essayait même pas de se délivrer de l'emprise en se moquant de sa propre absurdité, ou de se rassurer à tout le moins en se disant que tout cela passerait, qu'à défaut de certitude, il était permis d'espérer en tout cas qu'il s'agissait d'un trouble passager seulement. Les nerfs sans doute. Il ne cherchait pas de preuves pour appuyer une telle espérance, ne faisait rien pour s'y raccrocher. Si je rencontre cet homme, je le prendrai, le garderai. Ces mots de Claire qu'Anna lui avait oublonfiés lui revinrent à la mémoire. C'est cela, le voilà pris maintenant. Et pourtant elle était morte. Oui, son corps avait été détruit par la mort, mais son âme, l'âme n'est-elle pas immortelle? A-t-elle donc besoin de jouir de ses organes terrestres pour manifester son pouvoir? Le magnétisme vous a révélé précisément l'influence d'une âme humaine vivante sur une autre âme humaine. Et pourquoi cette action ne se poursuivrait-elle pas au-delà de la mort, du moment que l'âme demeure vivante? Dans quel but alors? Que sortira-t-il de cette histoire? À quoi peut-elle aboutir? Mais pouvons-nous comprendre, nous mortels, le but de tout ce qui s'accomplit autour de nous? Ces pensées agitèrent Aratov si fortement qu'il demanda tout à coup, pendant le thé à Platocha, si elle croyait à l'immortalité de l'âme. Celle-ci ne comprit pas d'abord la question. Puis elle se signa et répondit « Pour sûr, l'âme est immortelle, pourquoi en serait-il autrement ? Mais peut-elle en ce cas agir après la mort ?» reprit Aratov. La vieille répondit que l'âme le peut certainement, qu'elle prie pour nous, c'est-à-dire qu'elle ne le fait qu'après avoir traversé les épreuves dans l'attente du jugement dernier. Pendant les 40 premiers jours, toutefois, elle ne fait qu'errer autour de l'endroit où la mort l'a prise. Pendant les premiers 40 jours. Oui, ensuite débutent les épreuves. Aratov s'étonna des connaissances de sa tante en la matière et se retira dans son cabinet. Il sentit de nouveau l'invisible présence et se retrouva sous l'influence d'un pouvoir étranger. Celui-ci exerçait son action en faisant constamment surgir devant ses yeux l'image de Claire, dans ses moindres détails, avec des particularités même qu'il ne croyait pas avoir remarquées de son vivant. Il voyait ses doigts, ses ongles, les touffes de cheveux sur les joues au-dessous de la tempe, un léger grain de beauté sous l'œil gauche. Il voyait remuer ses lèvres, ses narines, ses sourcils, et cette démarche qu'elle avait, et comme elle tenait la tête légèrement inclinée à droite. Il en voyait tout, tout. Il n'admirait nullement les traits de la jeune fille qui lui apparaissait ainsi, mais il était impossible de ne pas la voir, de ne pas y songer. Durant la première nuit, toutefois, qui suivit son retour, elle ne le visita pas ses rêves. Il se sentait très fatigué et dormit à poings fermés. En revanche, dès qu'il ouvrit les yeux le matin, elle envahit de nouveau sa chambre et s'y installa définitivement comme pour y régner en maître. On lui dit qu'elle avait acquis ce droit par sa mort volontaire et qu'elle n'avait pas témoin besoin désormais de son consentement à lui. Il prit sa photographie, se mit à en faire des copies, des agrandissements, puis il eut l'idée de l'adapter au stéréoscope. Oh, cela lui donna beaucoup de mal, mais il y parvint finalement. Un tressaillement le parcourut, au moment où, pour la première fois, il aperçut, à travers le verre de l'appareil, l'image de la jeune fille dont le corps apparaissait en relief. Mais la photographie était grisâtre, d'apparence poussiéreuse. Et puis, les yeux, ses yeux qui regardaient de côté, comme s'ils se détournaient de lui. Alors il fixa longuement ses yeux, comme s'il attendait qu'ils se tournent vers lui. Il plissa même les paupières intentionnellement, pour mieux concentrer le pouvoir magnétique de son regard. Mais les yeux de la jeune fille demeuraient immobiles, et son corps semblait avoir pris l'apparence d'une poupée. Il lâcha le stéréoscope, se jeta dans un fauteuil, sortit le feuillet déchiré du journal avec les mots soulignés et songea. On prétend, n'est-ce pas, que les amoureux embrassent les lignes écrites par la main aimée. Moi, je n'éprouve aucune envie de le faire. Cette écriture me semble laide, d'ailleurs. Mais cette ligne contient ma condamnation. Il se souvint tout à coup de la promesse faite à Anna au sujet de l'article qu'il devait publier. Il s'installa devant son bureau et entreprit de le rédiger. Les phrases lui sortaient mal de la tête, c'en est faux, prenaient des allures rhétoriques. Et puis, cela s'en est faux surtout, comme s'il ne croyait pas en ce qu'il écrivait, ni en ses propres sentiments. Et Claire elle-même lui paraissait maintenant étrangère, incompréhensible. Elle lui résistait. « Oh non, songea-t-il en jetant la plume. Ou bien je suis pas fait pour écrire, ou bien il faut encore laisser mûrir l'article. » Il se remémora alors sa visite chez Madame Milodivnova, ainsi que son entretien avec Anna, la douce, l'admirable Anna. Le mot « intact » qu'elle avait prononcé ce jour-là le frappa subitement. Il sentit comme une brûlure en lui, puis une lumière. « Oui, » fit-il presque à voix haute, « elle était intacte. Je suis intact, moi aussi. Voilà bien ce qui lui a donné ce pouvoir sur moi. Des pensées sur l'immortalité de l'âme et sur la vie d'outre-tombe l'assaillirent de nouveau. N'était-il pas dit dans la Bible, « Mort, où est ton aiguillon ?» Et chez Schiller, les morts aussi vivront. Oh, die Toten sollen leben. Il y a aussi, je crois, un passage de ce genre chez le poète Mickiewicz. J'aimerai jusqu'à la fin des temps et au-delà encore. Et puis, un écrivain anglais a dit, l'amour est plus fort que la mort. La parole biblique agit tout particulièrement sur Aratov. Et il voulut retrouver l'endroit où ces mots figuraient. Mais il n'y avait pas de Bible chez lui, et il alla en demander une à Plotscha. Plotscha, très surprise de la demande de son neveu, s'en fut néanmoins acquérir un très vieil exemple des Saintes Écritures, avec une reliure de cuir usé et déchirée par endroits, portant des fermetures de cuivre. Le livre était entièrement taché de cire de bougie. Elle le tendit à Alatov, qui l'emporta dans sa chambre. Il chercha longtemps le passage qui l'intéressait, sans parvenir à le retrouver. En revanche, il tomba sur un autre texte. Personne ne possède un amour plus puissant que celui qui sacrifie son âme pour son prochain. Saint Jean 15-13. Il songea. Bon, c'est pas tout à fait ça. Il aurait mieux valu dire personne ne possède un pouvoir plus grand. Et si ce n'était pas pour moi qu'elle a offert son âme en sacrifice? Et si elle a mis fin à ses jours parce qu'elle en avait assez de l'existence? Supposons enfin qu'elle n'ait pas eu du tout l'intention de parler d'amour en venant ce rendez-vous avec moi. Mais au même instant, il revit Claire telle qu'elle lui était apparue sur le boulevard en la quittant. Il se souvint de l'expression d'amertume de ses traits, de ses larmes, de ses paroles. « Oh, vous n'avez rien compris !» Non, décidément, aucun doute n'était possible quant à la raison qui l'avait fait agir ainsi, quant à la personne pour qui elle avait offert son âme en sacrifice. La journée s'acheva sur ces réflexions et la nuit vint. Chapitre 15. Alatov se coucha de bonne heure sans avoir réellement sommeil. Il espérait que le calme lui reviendrait au lit. La tension de ses nerfs lui causait une fatigue beaucoup plus pénible que l'épuisement physique du voyage. Néanmoins, et en dépit de cette fatigue, il ne parvenait pas à s'endormir. Il voulut lire, mais les lignes dansaient devant ses yeux. Alors, il éteignit la chandelle et les ténèbres envahirent la chambre. Il continuait à rester couché, sans dormir, les yeux ouverts, et voici que tout à coup, il crut entendre, tout près de son oreille, comme un murmure étrange. « Oh, c'est mon cœur qui bat sans doute, ce sont les pulsations de mon sang que je perçois, » songea-t-il. Mais le murmure, d'abord indistinct, devint plus net. Quelqu'un lui parlait à l'oreille, c'était sûr. C'était un discours maintenant, des phrases prononcées rapidement d'une voix plaintive et confuse. Il n'arrivait pas à discerner un seul mot, mais c'était la voix de Claire. Alatov ouvrit les yeux, se souleva à demi, s'accouda sur le lit. La voix devint plus faible en ce moment, mais sans s'arrêter de parler de la même façon plaintive, précipitée et indistincte. C'était la voix de Claire, pas moyen d'en douter. Des doigts invisibles coururent sur les touches du piano et en tirèrent des arpèges légers, presque aériens. Ensuite, la voix se mit à parler de nouveau. Les syllabes devenaient plus nettes, plus allongées. On lui dit des gémissements, toujours les mêmes. Puis les mots entiers commencèrent à s'en dégager. Des roses, des roses, des roses, des roses, répéta Alatov à voix basse. Oh oui, ce sont les roses sans doute que j'avais vues sur la tête de cette femme dans mon rêve. Des roses, entendit-il de nouveau. Est-ce toi? Demanda Alatov en chuchotant. La voix se tut subitement. Alatov attendit encore, et laissa retomber sa tête sur l'oreiller. « Oh, c'est une hallucination de Louis, » se dit-il. « Mais si elle se trouvait effectivement ici, tout près de moi, supposons que je l'aperçoive, m'effraierais-je en ce cas, ou me réjouirais-je? Mais de quoi aurais-je peur au fond? Mais de quoi me réjouirais-je aussi? Tout au plus de la preuve que j'aurais aussi de l'existence d'un autre monde, de l'immortalité de l'âme. Cependant, et en admettant même que ce soit une apparition, ne peut-il pas s'agir d'une hallucination de la vue? Il préféra néanmoins allumer la bougie, et non sans quelque crainte, il jeta autour de lui un regard rapide. Elle n'aperçut rien d'extraordinaire dans la chambre. Il se leva, s'approcha du stéréoscope. La poupée grisâtre lui apparut de nouveau avec ses yeux regardant de côté. La crainte céda la place au dépit dans l'âme d'Alatov. Il était comme déçu dans son attente, et cette attente lui paraissait d'ailleurs ridicule. Oh, quelle sottise! Murmura-t-il en se recouchant. Il éteignit la bougie, et la pièce fut de nouveau envahie par les ténèbres. Alatov résolut de s'endormir coûte que coûte. Mais voici qu'une nouvelle sensation le pénètre. Il lui semble maintenant que quelqu'un se tient au milieu de la chambre, deux pas de lui. Et il croit percevoir une faible respiration. Il se retourne brusquement, ouvre les yeux. Mais comment discerner les objets dans cette nuit opaque? Il se mit à chercher une allumette sur la table de nuit. Soudain, il lui semble apercevoir un souffle léger, comme un fluide très doux et silencieux qui traversait la chambre, l'enveloppait, le pénétrait, et les mots « C'est moi » résonnèrent nettement, cette fois dans ses oreilles. « Moi, c'est moi !» Il passèrent avant qu'il ne parvint à allumer la bougie. De nouveau, la chambre était vide. Il ne vit personne et n'entendit rien, en dehors des battements précipités de son propre cœur. Il but un verre d'eau et demeura immobile, la tête appuyée sur le bras. Il attendait. Il se dit « J'attendrai. Ou bien tout cela n'est que sottise, ou bien elle se trouve réellement ici. Elle va tout de même pas jouer avec moi comme le chat avec la souris. » Il attendit, attendit longtemps, si longtemps qu'il éprouva des fourmillements dans le bras sous-devant sa tête. Cependant, aucune des sensations qu'il avait éprouvées quelques instants plus tôt ne se reproduisit. Deux ou trois fois, ses yeux se fermèrent et il les rouvrit immédiatement. Il lui sembla, du moins, qu'il les rouvrait. Peu à peu, ses yeux se fixèrent sur la porte et s'immobilisèrent dans cette direction. La bougie achevait de se consumer et la chambre était plongée dans une demi-obscurité, d'où émergeait seule la longue tache blanche de la porte. Et voici que cette tache se mit à osciller, s'effaça progressivement et disparut, tandis qu'apparaissait à sa place une silhouette féminine, debout sur le seuil. Alatov la dévisagea. C'était clair. Cette fois, elle regarde droit vers lui, elle s'avance vers son lit. Elle porte sur la tête une couronne de roses écarlates. Bouleversé, il se souleva sur sa couche. Il aperçut alors devant lui, vêtue d'une courte camisole blanche, sa tante en bonnet de nuit ornée d'un large ruban rouge. « Platocha ! » recula-t-il avec peine. « Est-ce bien vous ?»« Mais c'est moi, répondit Platonida Ivanovna. « C'est moi, mon petit Yacha. Mais pourquoi êtes-vous venu ?» Ah, tu m'as réveillé, tu gémissais tout le temps, et puis tu as crié tout à coup, « Au secours, sauvez-moi !» J'ai crié, moi ? Oui, tu as crié, mais d'une voix si enrouée, « Oh, au secours !» Je me suis demandé à ce moment si tu n'étais pas malade, pour l'amour du ciel. C'est pourquoi je suis venu, tu te sens pas bien ? Mais non, mais rien. Eh bien, c'est donc que tu as fait un mauvais rêve. Veux-tu que je brûle un peu d'encens ? Alatov regarda de nouveau sa tante fixement et partit d'un rire bruyant. L'aspect de la bonne vieille en blouse et bonnet, avec son visage épouvanté qui semblait s'allonger, était en effet un des plus drôles. Les forces mystérieuses dont il s'était senti environné et qui l'opprimaient s'évanouirent en un clin d'œil, et il ne resta plus rien de ses sortilèges. « Non, Platocha, mon ange, c'est pas nécessaire, répondit-il. Excusez-moi de vous avoir dérangé bien involontairement. Reposez en paix, je m'endormirai moi aussi. » Platonida Ivanovna s'attarda quelques instants encore dans sa chambre, désigna de la main la bougie consumée, murmurant « Mais pourquoi n'as-tu pas éteinte? Un malheur est si vite arrivé. » Et en partant, ne put s'empêcher de faire, fût-ce de loin, un signe de croix sur son neveu. Karatov s'endormit immédiatement et ne se réveilla qu'au matin. Il se leva de fort bonne heure, bien qu'avec un vague regret dans l'âme. Il se sentait léger et libre. « Oh, voilà les fantaisies romantiques, mon ami !» se dit-il à lui-même en souriant. Il ne jeta pas un regard sur le stéréoscope, ni sur le feuillet de journal qu'il avait arraché. Après le déjeuner, cependant, il se rendit chez Kupfer. Il attirait vers son ami, il le sentait et le devinait obscurément. Chapitre 16. Aratov trouva son vieux joyeux ami à la maison. Il bavarda quelques minutes sans but précis, lui reprocha de les négliger complètement, lui et sa tante, puis écouta les éloges renouvelés que Kupfer fit de cette femme au cœur d'or, de la princesse, qui venait de lui envoyer de Yaroslav une calotte brodée d'écailles de poisson. Brusquement, sans transition aucune, il s'assit en face de Kupfer et le regardant droit dans les yeux, déclara qu'il s'était rendu à Kazan. « Tu es allé à Kazan? Pourquoi ça ?»« Bien, comme ça, je voulais recueillir des informations au sujet de cette Claire Milich. » Ah oui, celle qui s'est empoisonnée, oui. » Kupfer hocha la tête. Te voilà bien, toi, fit-il ensuite. Avec ton petit air paisible, tu as donc couvert 1000 verstes à l'aller et avant au retour. Et dans quel but, je te le demande, s'il y avait eu du moins une femme dans cette histoire. Dans ces cas-là, je suis prêt à tout comprendre, oui, toutes les folies même. Ah, c'est beau, Kupfer se plongea la main dans ses cheveux, qu'il remua d'un geste ample. Mais quoi? Pour recueillir uniquement de la documentation, comme vous dites, vous autres savants? Oh non, grand merci, en vérité. Il existe pour cela des commissions de statistiques. Eh bien, tu fais la connaissance de la vieille et de la sœur. C'est une jeune fille admirable, n'est-ce pas vrai? Admirable, confirma Aratov. Elle m'a appris beaucoup de détails intéressants. T'a-t-elle raconté comment Claire s'est empoisonnée? Mais comment, que veux-tu dire? Ben, j'entends la manière dont elle s'y est prise pour s'empoisonner. Ah non, elle ne me l'a pas dit. Mais j'étais encore sous le coup de la douleur. Je n'ai pas osé lui poser trop de questions. La matière avait quelque chose de particulier? Mais certainement! Imagine-toi la chose. Elle devait jouer au théâtre le même soir, et elle a joué. Elle a pris avec elle la fiole de poison sur la scène. Et elle l'a bu avant le début du premier acte, qu'elle joua ensuite jusqu'à la fin. Avec le poison dans son corps déjà. Quelle force de volonté, hein? Quel caractère! On prétend même qu'elle n'avait jamais incarné son personnage avec tant de sentiments, tant de feu intérieur. Le public, qui ne soupçonnait rien, applaudissait à tout rompre, la rappelait. Mais à peine le rideau était-il tombé qu'elle s'affaissa sur la scène. Elle se tordait de douleur et rendit l'âme au bout d'une heure. « Oh, tu l'avais donc pas raconté. Les journaux l'ont du reste relaté en son temps. » Aratov sentit ses mains devenir froides et quelque chose trembla dans sa poitrine. « Non, non, tu ne me l'as pas raconté, » fit-il enfin. « Sais-tu peut-être quelle pièce elle a joué ce soir-là ?» Kupfer devint songeur. « On m'a dit le nom de cette pièce, » fit-il enfin. « Mais la question d'une jeune fille trompée, c'était un drame sans doute. Claire était née pour jouer des rôles tragiques. Son extérieur, déjà. Et où vas-tu donc ?» s'écria tout à coup Kupfer au milieu de sa phrase, en voyant qu'Aratov avait pris son chapeau. « Je me sens pas très bien, » répondit Aratov. « Au revoir, je reviendrai bientôt. » Kupfer l'arrêta et le dévisagea un instant. « Quel homme nerveux tu es, voyons, regarde-toi un peu, tu es devenu blanc comme un linge. »« Je me sens mal, » répéta Aratov en se dégageant, et il s'éloigna. C'est à ce moment seulement qu'il se rendit clairement compte d'être venu chez Kupfer dans le seul but de causer de Claire, de cette Claire folle, de cette Claire infortunée. entra chez lui. Il ne tarda pas cependant à se calmer jusqu'à un certain point. Les circonstances ayant entouré la mort de Claire l'avaient bouleversé au début. Mais ensuite, ce jeu sur la scène, avec le poison dans son corps déjà, comme s'était exprimé Combeferre, il parut une pose odieuse, une bravade stupide. Et il s'efforça de ne plus y penser, dans la crainte d'éprouver pour elle un sentiment de répulsion. Au dîner, assis en face de Plateau Chat, il se souvint tout à coup de son apparition nocturne. Il revit sa courte camisole blanche et ce bonnet orné d'un large ruban. À quoi bon un ruban sur un bonnet de nuit? Dans cet accoutrement risible qui, à l'instar du coup de sifflet du machiniste dans un ballet fantastique, avait fait s'évanouir les spectres autour de lui. Il obligea même Plateau Chat à raconter une seconde fois comment elle avait entendu son cri et s'était effrayée, comment elle sauta hors du lit et le parvint durant quelques instants à retrouver ni sa propre porte, ni celle de son neveu. Et vers le soir, il fit une partie de cartes avec elle et se retira dans sa chambre, sentant un peu de tristesse au cœur, mais relativement calme, cette fois encore. Alatov ne s'inquiétait pas de la nuit qu'il allait passer, et n'y songeait même pas. Il était certain de dormir très bien. Par moments, la pensée de Claire lui traversait l'esprit, mais il se rappelait alors sa façon théâtrale de mourir et se détourner d'elle. Cette conduite grotesque neutralisait les autres impressions qu'il en avait gardées. Ayant jeté un regard furtif du côté du stéréoscope, il songea qu'elle détournait les yeux sur la photographie dans un sentiment de honte, sans doute. Directement au-dessus du stéréoscope, se trouvait pendu au mur le portrait de sa mère. Alatov le descendit, l'examina longuement, l'embrassa et l'enferma avec précaution dans un tiroir. Pour quelle raison le fit-il? Était-ce parce qu'il ne convenait pas que le portrait demeurât dans le voisinage de cette femme, ou pour quelque autre motif? Alatov n'en savait rien lui-même. Cependant, le portrait de sa mère avait réveillé en lui le souvenir du père, de ce père qui était mort sous ses yeux, dans la même chambre, sur le lit même où il dormait tous les jours. « Mais que penses-tu de tout cela, père ?» lui demanda-t-il mentalement. « Tu comprenais toutes ces choses. Tu croyais, toi aussi, à cet univers des âmes dont parle Schiller. Conseille-moi. Bon. » Ton père t'aurait conseillé d'oublier toutes ces sottises, conclut Aratov à voix haute, et il prit un livre sur sa table. Il ne put pas lire longtemps néanmoins, et, sentant son corps s'alourdir étrangement, il se mit au lit plus tôt que d'habitude, dans la certitude calme s'endormir sur le champ. C'est ce qui arriva d'ailleurs, mais son espoir de passer une nuit paisible ne se réalisa pas. Chapitre 17. Minuit n'avait pas sonné encore qu'il fit un rêve extraordinaire et menaçant. Il se vit dans une riche maison de propriétaire foncier. La maison lui appartenait, il l'avait achetée peu auparavant, en même temps que le domaine attenant. Et il songe « Oh, cela va bien pour l'instant, mais gare au malheur !» Un petit homme tourne autour de lui. C'est son intendant. Il rit tout le temps, salue à tout propos, il veut montrer à Alatov que tout a été admirablement bien organisé dans la maison comme dans le domaine. « Veuillez-vous donner la peine de regarder ?» répète-t-il sans cesse, en ricanant à chaque mot. « Voyez comme tout est bien ici. Voici les chevaux. Quelle belle splendide !» Alatov voit effectivement une série de chevaux énormes. Ils sont disposés en file dans leur statue d'écurie, le dos tourné vers lui. Leurs queues et leurs crinières sont magnifiques, extraordinaires même. Mais tandis qu'Alatov passe derrière les bêtes, celles-ci tournent leur tête vers lui en retroussant leurs mufles et montrant des dents menaçantes. « Cela va bien, » songe Alatov, « mais gare au malheur. Veuillez-vous donner la peine de regarder ?» répète de nouveau l'intendant. « Donnez-vous la peine de passer au jardin.
Voyez les belles pommes que nous avons là. Les pommes étaient effectivement merveilleuses, rouges et toutes rondes. Mais dès qu'Aratov jeta un regard sur elles, leurs belles joues se fendillent, se rident et les fruits tombent. Gare au malheur, songe-t-il. Et voici le lac, susurre maintenant l'intendant. Voyez comme il est bleu, comme il est lisse. Et voici un canot tout doré. Désirez-vous pas y prendre place? Il avancera tout seul. Oh, je n'irai pas dans le canot, songe Aratov. Gare au malheur. Pourtant, il s'y installe. Il aperçoit alors au fond de l'embarcation un petit être bizarre, ayant l'apparence d'un singe, et qui tient dans ses pattes une fiole contenant un liquide foncé. « Oh, ne vous inquiétez pas !» crie de la rive l'attendant. « C'est rien, c'est la mort, bon voyage !» Le canot file comme une flèche. Soudain, un vent se lève. Oh, ce n'est plus le souffle léger, silencieux et doux de la veille. C'est un cyclone terrible, dont les noires rafales hurlent lugubrement. Tout se brouille devant les yeux d'Aratov, et dans ce tourbillon de ténèbres, il aperçoit soudain Claire, affublée, comme à la Seine. Elle porte la fiole à ses lèvres. On entend des cris lointains, « Bravo, bravo !» Mais une voix résonne aux oreilles d'Aratov. « Oh, tu t'imaginais que tout cela s'achèverait comme une comédie? Sache que c'est une tragédie. Et quelle tragédie !» Aratov se réveilla brusquement, haletant et ramblant. La chambre n'est pas plongée dans l'obscurité. Une lumière pâle et triste vient de quelque part et projette une clarté immobile sur tous les objets. Aratov ne comprend pas d'où rayonne cette lumière, mais il sent que Claire est là, dans cette chambre. Il perçoit sa présence. Il est en son pouvoir de nouveau et pour toujours. Un cri s'échappe de ses lèvres. « Claire, est-ce toi ?»« Oui !» entend-il nettement la réponse provenant du milieu de la pièce où flotte cette clarté immobile. Aratov répète sa question d'une voix éteinte. « Oui !» entend-il encore. « Mais je veux te voir en ce cas !» s'écrie-t-il, et il saute hors de son lit. Il demeure quelques instants debout, les pieds collés contre le plancher glacé. Son regard erre de tous les côtés. « Mais où donc est-elle ?» murmure ses lèvres. Mais il ne voit rien, n'entend rien. Il se retourne alors et se rend compte que la faible lumière qui remplit la chambre provient d'une veilleuse dissimulée derrière une feuille de papier dans un angle de la pièce où Platonida l'avait probablement placée pendant qu'il dormait. Il perçoit même une odeur d'encens. Également l'œuvre de la tante, songe-t-il. Il s'habille à la hâte, rester au lit, dormir, lui semble impossible. Debout, au milieu de la chambre, il médite, les bras croisés sur la poitrine. La sensation de la présence de Claire est en lui plus forte que jamais. Mais maintenant, il parle à voix haute, mais avec la lenteur solennelle que l'on met à prononcer des incantations. « Claire, débuta-t-il. S'il est vrai que tu es ici, si tu me vois et m'entends, apparais alors. Si la puissance à laquelle je me sens soumis est effectivement ta puissance, si elle vient de toi, apparais. Si tu comprends quel repentir amer je trouve de ne point t'avoir apprécié et de t'avoir repoussé, apparais. Et si c'est bien ta voix que j'ai perçue, si le sentiment qui m'a envahi est l'amour, si de la certitude aujourd'hui que je t'aime, moi qui n'avais jamais aimé encore et n'ai point connu de femme jusqu'ici, si tu as compris que j'ai conçu pour toi, après ta mort, un amour passionné et inguérissable, si tu ne veux pas enfin que je perde ma raison claire, apparaît !» Aratov n'avait pas eu le temps d'achever ce dernier mot, qu'il sentit tout à coup quelqu'un s'approcher de lui par derrière, comme autrefois sur le boulevard, et posait le bras sur son épaule. Il se retourna, personne. La sensation de sa présence devint si vive, si réelle en cet instant, qu'il se retourna de nouveau fébrilement. Mais qu'est-ce donc ?
À deux pas de lui, dans son fauteuil, il voit une femme assise, tout de noir vêtue. La tête est tournée de côté comme dans le stéréoscope. C'est elle, c'est clair. Mais pourquoi a-t-elle ce visage si sévère, cet air si désespéré? Alatov se laisse doucement choir à genoux. Il avait eu raison. Il n'éprouvait dans cette minute ni terreur ni joie, et pas même d'étonnement. Au contraire, les battements de son cœur semblaient plus paisibles. Un seul sentiment était en lui qui l'emplissait tout entier. Enfin, enfin, enfin! Claire, débuta-t-il d'une voix faible, mais égale. Pourquoi donc ne me regardes-tu pas? Je sais que c'est toi. Cependant, je pourrais penser que c'est mon imagination qui a créé ainsi ton image, en tout point pareille à celle-là. Il fit un geste dans la main dans la direction du stéréoscope. Prouve-moi que c'est toi réellement. Tourne-toi vers moi, regarde-moi, Claire. Le bras de Claire se souleva lentement, puis retomba aussitôt. Mais Claire, Claire, tourne-toi donc vers moi. Cette fois, la tête de Claire se tourna lentement, les paupières baissées s'ouvrirent, et les sombres pupilles de ses yeux fixèrent étrangement Arlatov. Il recula légèrement et poussa un seul cri prolongé, frémissant. Claire le dévisageait intensément. Mais ses yeux et les traits de son visage gardaient une expression pensive et sévère, presque bourrue. C'est précisément avec cet air-là qu'elle était apparue sur l'estrade lors de la matinée littéraire avant d'avoir aperçu Aratov. Tout comme l'autre fois, elle rougit subitement. Son visage s'anima, son regard brilla, et un sourire heureux, triomphant, entr'ouvrit ses lèvres. « Je suis pardonné !» s'écria Aratov. « Tu as vaincu. Allez, prends-moi donc, car je suis à toi et tu es à moi. » Il s'élança vers elle, il voulut baiser ses lèvres souriantes, ses lèvres triomphantes, et il les embrassa en effet. Il sentit la brûlure de leur contact, il sentit aussi la fraîcheur humide de ses dents, et le cri d'enthousiasme retentit dans la chambre très obscure. Accouru à ce cri, Platonida Ivanovna le trouva évanoui. Il était agenouillé devant le fauteuil, la tête reposant sur le siège. Les bras tendus en avant retombaient impuissants des deux côtés du dossier. Une impression de béatitude s'était figée sur son visage pâle. Platonida Ivanovna s'écroula à ses côtés, étreignit sa taille murmurant « Yasha, mon petit Yasha, mon Yashenka !» Elle voulut le soulever avec ses mains osseuses, mais il demeurait inerte. Alors Platonida Ivanovna se mit à crier d'une voix éperdue. La domestique se précipita dans la chambre. À deux, elle parvint à le soulever, tant bien que mal. Le firent asseoir, l'aspergèrent d'eau, et même d'eau bénite, prise à l'icône. Il revint à lui. Mais à toutes les questions de la tante, il se bornait à sourire, avec un air si rempli de félicité que la pauvre femme en conçut de nouvelles terreurs. Elle faisait à tout instant le signe de croix, tantôt sur lui, tantôt sur elle-même. Arlatov écarta finalement le bras de la vieille et fit, toujours avec cette expression d'étrange félicité sur le visage, « Voyons, Platosha, mais qu'avez-vous donc? Mais qu'as-tu donc, toi, mon petit Yasha? Moi, mais je suis heureux, pleinement heureux, Platosha. Et c'est tout. Maintenant, j'aimerais me coucher et dormir un peu. » Il voulut se lever, mais sentit une telle faiblesse dans ses jambes, ainsi que dans tout son corps, qu'il fut incapable de se dévêtir et de s'étendre dans son lit, sans l'aide de sa tante et de la domestique. Il s'endormit toutefois très vite en gardant sur ses traits une expression de bonheur enthousiaste. Mais son visage était affreusement pâle.
Chapitre 18 et dernier. En pénétrant dans sa chambre le lendemain matin, Vlatonida Ivanovna le trouva dans le même état. Mais la faiblesse n'avait pas passé, si bien qu'il préféra rester au lit. La pâleur de son visage inquiéta tout particulièrement la vieille tante. « Qu'est-ce donc, Seigneur ? » songeait-elle. « On dirait qu'il n'a plus une goutte de sang sous la peau. Avec ça, il a refusé du bouillon. Il sourit continuellement. Il assure qu'il se porte très bien. » Il refusa le petit déjeuner également. « Mais qu'as-tu, Yasha ? As-tu resté couché assis toute la journée ?»« Et pourquoi pas ?» répondit Aratov d'une voix gentille. Cette gentillesse déplut également à Platonida Ivanovna. Aratov avait l'air d'un homme à qui venait d'être réveillé un grand mystère, très agréable pour lui, qu'il gardait jalousement, sans vouloir le communiquer aux autres. Il attendait la nuit avec plus de curiosité encore que d'impatience. « Mais que va-t-il arriver maintenant ?» se demandait-il. « Qu'est-ce qui va suivre ?» Il avait complètement cessé de s'étonner. Il était certain désormais d'être entré en communication avec Claire. Il s'aimait mutuellement, il en avait la certitude aussi. Mais que pouvait-il sortir d'un amour de ce genre ? Il se souvint de ce baiser, et un peu triste et froid, mais délicieux, parcourut tous ses membres comme une effluve voluptueuse. « Ah, voilà un baiser, songea-t-il, que Roméo et Juliette eux-mêmes n'ont point connu. La prochaine fois, je me montrerai plus fort. Elle sera mienne. Elle viendra avec une couronne de petites roses sur ses boucles noires. Oui, mais qu'y aura-t-il ensuite ? Car nous est évidemment impossible de vivre ensemble. Par conséquent, ben, il faudrait que je meure, afin que nous soyons réunis. Ne serait-ce pas dans ce but qu'elle est venue ? Et ne serait-ce pas ainsi qu'elle veut me prendre ? Et puis quoi, mourons, puisqu'il le faut. La mort ne me fait plus peur pour maintenant. Elle n'a pas le droit au pouvoir de m'anéantir, n'est-il pas vrai ? Tout au contraire. C'est là-bas seulement. C'est ainsi uniquement que je serai heureux. Heureux comme jamais je ne l'avais été jusqu'ici, comme elle ne l'a pas été elle non plus. Puisque nous sommes intacts l'un et l'autre, oh, ce baiser ! Platonida Ivanovna entrait à tout instant dans la chambre de Aratov. Elle ne questionnait pas, de crainte de le fatiguer, et se bornait à jeter sur lui un regard rapide, murmurait quelques mots, poussait un soupir et s'éloignait. Mais voici qu'il refusa de dîner également. Oh, cette fois, c'en était trop. La pauvre vieille alla chercher le médecin du district qu'elle connaissait de longue date et qui lui assurait une grande confiance, pour l'unique raison qu'il ne buvait jamais et avait épousé une Allemande. Aratov parut surpris quand elle amena le médecin à son chevet, mais Platonida Ivanova pria avec tant d'insistance son bon petit Yasha de permettre à Parabon Parabovitch, c'était le nom du médecin, de l'examiner, ne fût-ce que pour lui faire plaisir à elle. Karatov finit par y consentir. Parabon Parabonitch lui tâta le pouls, lui fit tirer la langue, posa deux ou trois questions et déclara qu'une auscultation était nécessaire. Karatov était d'humeur si bienveillante qu'il ne s'y opposa pas. Le médecin découvrit délicatement sa poitrine, frappa légèrement du doigt, colla l'oreille, poussa deux petits grognements et prescrivit des gouttes ainsi qu'une mixture. « Surtout, ajouta-t-il, il importe que le malade reste tranquille en évitant toutes les émotions violentes. Oh, »« Tiens, tiens, songea Aratov, voilà un conseil, mon cher, qui vient un peu tard. »« Et qu'a-t-il donc, mon Yasha ?» demanda Platonida Ivanovna à Palamon Palamonitch en arrêtant sur le seuil de la chambre pour lui remettre un assignat de 3 roubles. L'esculape de district, qui, à l'instar de tous les médecins contemporains, et tout particulièrement de ceux qui portent l'uniforme, aimait à parader avec des termes scientifiques, déclara à la vieille que son neveu présentait tous les symptômes dioptriques d'une cardialgie nerveuse avec fébrice. parle donc simplement, mon petit père, l'interrompit Platonida Ivanovna. Ton latin ne m'en impose pas. Nous ne sommes pas ici à la pharmacie. Bien, c'est le cœur qui est détraqué, expliqua alors le médecin. En outre, il a un peu de fièvre. Sur quoi il renouvela ses conseils concernant le repos nécessaire, la tranquillité et la suppression des émotions violentes. « C'est pas dangereux, j'espère ?» demanda Platonida Ivanovna en le regardant avec sévérité. Comme pour lui dire « Toi, mon vieux, essaye pas de me bourrer encore le crâne avec ton latin. »« Pas pour l'instant, » fit le médecin. Et il partit. Demeuré seul, Platonida Ivanovna plongea dans l'abattement et la prostration. Néanmoins, elle envoya chercher le médicament à la pharmacie, mais Alatov refusa de le prendre, malgré ses supplications. Il ne voulut pas boire non plus de tisane pectorale. « Mais de quoi vous inquiétez-vous donc, ma colombe ?» disait-il. « Je vous assure, je suis à l'heure actuelle l'homme le plus heureux et le mieux portant du monde. » Platonida Ivanovna se borna à hocher la tête. Vers le soir, la fièvre monta légèrement, mais il insista pour qu'elle le laissât seule la nuit et se retira dans sa chambre. Platonida Ivanovna obéit. Toutefois, elle ne voulut pas se déshabiller et se coucher. Elle s'assit dans un fauteuil, tendit l'oreille et murmura ses prières. Elle commençait à s'assoupir déjà quand, soudain, un cri terrible, aigu, la fit sursauter. Elle se précipita dans le cabinet d'Alatov, et comme la veille, elle se trouva sur le plancher. Mais il ne reprit pas connaissance, comme le jour précédent, en dépit de tous les efforts qui furent tentés pour le ranimer. Durant la nuit, il eut un accès de fièvre chaude avec ce délire, et une inflammation du cœur se déclara. Il mourut au bout de quelques jours. Son second évanouissement avait été marqué par un détail troublant. Lorsqu'on le releva pour le coucher sur son lit, on trouva dans sa main droite crispée une petite touffe de cheveux noirs féminins. Mais d'où provenait-il ? Anna Semyonovna possédait bien une touffe de ce genre, qu'elle gardait en souvenir de Claire. Mais pour quel motif aurait-elle abandonné à Alatov une relique si précieuse à ses yeux ? À moins qu'elle ne l'eût glissé dans le journal, et n'en se serait pas souvenu en remettant celui-ci à Alatov. Dans son délire d'agonie, Alatov parlait de lui-même comme de Roméo, après l'empoisonnement. Il parlait du mariage célèbre et consommé, disant qu'il savait maintenant ce que c'est que la volupté. L'instant le plus pénible pour Plaja fut néanmoins celui où son neveu, ayant à demi repris connaissance, et l'apercevant à son chevet, lui dit « Pourquoi pleures-tu, tante ? Parce que je vais mourir. M'ignores-tu donc que l'amour est plus puissant que la mort ? Mort, oh mort, mais où est ton aiguillon ? Ce n'est pas pleurer qu'il faut, mais te réjouir, comme je me réjouis moi-même. » À ces mots, le visage du mourant s'illumina de nouveau de ce sourire de béatitude qui inspirait de telles terreurs à la pauvre vieille. Bougival, octobre 1882.